Vous écoutez
RMC. RMC. L'After Foot, Thomas Desson.
Pas mal d'infos en ce jour, on y reviendra dans un instant. Monaco, une très bonne fin de mercato. Ça pourrait être un sacré 180. Mais tout de suite, ce sujet encore et toujours brûlant. Il est proche de Leonardo depuis 2011. Donc Mohamed Bouafsi a passé un petit coup de fil à Leonardo. Et on a l'impression, après cette conversation, Oussem Loussaïef, que Neymar est peut-être parti pour rester.
Et oui, on recontextualise la chose. C'est une interview donc donnée à Leonardo par, par Leonardo à Mohamed Bouafsi. Tu parles de moi, qu'est-ce qu'il est beau.
Oui, le présentateur du sitcom.
De toi. Et j'aurais bien aimé moi aussi lever mes manches un peu comme toi, mais j'ai pas de tatouage.
T'as pas d'assez gros bras et t'as pas assez de tatouage.
Donc pour revenir à Leonardo.
De ma muscu. Hein.
Ben, j'ai vu même tous les jours, mais ça ne se voit pas. Pour revenir à Leonardo, et donc il accorde une interview à Mohamed Bouafsi ces derniers jours. C'est lui qui maîtrisait le dossier Neymar au Paris Saint-Germain. Et il a toujours eu cette fermeté. C'est du cash que le Paris Saint-Germain veut. Si vous voulez, Neymar, c'est 222 millions d'euros. Et ces derniers temps, il y avait le deal avec un joueur, voire deux joueurs. Et là, cette fois-ci, c'est un virage complètement
opposé. Je t'ai écouté faire le fait entrer l'accusé. Maintenant, c'est un petit peu à chaque fois que tu
y as. Non, non, parce que j'ai pas mis de musique. Mais c'est bien de narrer les choses.
C'est vrai.
Exactement.
Donc Jonard.
C'est magnifique.
Jonard, d'ailleurs, Ondelat a envoyé un message, a apprécié aussi le truc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Revenons à Leonardo. Donc, virage complètement inattendu aujourd'hui. Dans l'interview avec Mohamed Bouafsi, c'est beaucoup de messages dissimulés dans l'interview. D'abord, il rappelle une chose, Neymar n'est pas écarté du groupe parisien. Il s'entraîne à part parce qu'il revient, il relève d'une blessure, une blessure très importante au niveau du pied, une blessure où il y a eu des récidives. Donc, il rappelle ça. Neymar n'est pas écarté
du groupe parisien. Déjà, moi, j'ai un souci. Il nous parle, effectivement, il n'y a plus de problème de fissure de Jones. Enfin, c'est la cheville sur laquelle, normalement,
il parle de la vis. Il dit que la vis est bien consolidée, que le pied va bien, que Neymar n'est plus blessé, donc qu'il revient, et comme c'est une blessure très grave, il faut prendre son temps avec Neymar. C'est ce qu'il dit à Mohamed Bouafsi. Et là où il y a des messages, c'est qu'il rappelle que Neymar a 3 ans de contrat, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Lorsqu'il prend la parole samedi dernier auprès des journalistes, il ne parle pas de l'amour de Neymar au Paris Saint-Germain ou l'inverse. Il dit juste que Neymar a des contacts avec des clubs et que le PSG discute. Cette fois-ci, il rappelle que Neymar a un contrat de 3 ans au Paris Saint-Germain. Il va même faire des éloges sur Neymar. Il dit Neymar est un bon garçon, je n'en doute pas, je ne le connaissais pas, maintenant je le connais, c'est un bon garçon. Et puis lorsque Mohamed Bouafsi lui rappelle que lors du dernier match, il y a eu quand même des chants à l'encontre de Neymar. Il rappelle, il dit, c'est vrai qu'il a fait des mauvaises choses, Neymar. Mais c'est un gars bien, c'est quelqu'un d'attachant. C'est ce que dit Leonardo. Donc, quand on regarde avec les sous-entendus, si on essaie d'interpréter les messages, c'est vrai qu'il y a un virage et on se dit, et si Neymar restait au Paris Saint-Germain ?
Alors, finalement, Léo dit Neymar, pas si persona non grata que cela. Est-ce que, messieurs, Jonathan, Kevin, ils soufflent le froid afin d'exciter l'acheteur, le preneur,
Barça ? Vous voyez pas l'évidence ? Kevin, commence.
Tu veux que je commence ?
Vas-y.
Parce que je vois
si tu vois l'évidence, en fait.
Bah, de toute façon, Leonardo, depuis le début qu'il est arrivé au PSG, il fait quasiment à sans faute. Alors, sur le cas Neymar, il a été très prudent au début. Hein, Oussem, il a pas beaucoup communiqué, il a botté en touche régulièrement et aujourd'hui, bah il est bien obligé de mettre les pieds dans le plat comme on dit, il est bien obligé d'y aller. Alors il a commencé par attendre la fin du mercato anglais, ça c'était très intelligent parce qu'on voyait que les prix flambaient à droite à gauche et quand le PSG est dans une affaire, bah malheureusement c'est le cas également. Ensuite, il y a eu l'apparition du Real et là il s'est dit bon. Là, la passe en profondeur, il faut que j'y aille parce que si le Real rentre, on va pouvoir faire des enchères avec le Barça et ça, c'est pas mal pour nous.
Et faire la nique au Barça, ça leur fait du bien aussi vu que le Barça
voilà.
Fait la nique à
maintenant,
Paris ces derniers temps.
Il a vu ce qui s'est passé ce week-end. Je pense qu'au fond, et on est tous d'accord avec lui, non pas qu'il excuse parce que bon, faut pas aller trop loin, mais il comprend bien sûr la frustration des supporters parce qu'elle est normale. Et il s'est dit attention quand même parce que en faisant ça, il sait bien que Neymar prend la main un peu en se disant mais en fait moi je peux plus rester. Donc quoi qu'il arrive, faut trouver une solution avec le Barça. Les supporters veulent plus de moi je veux plus rester. Et là Leonardo, il est obligé de faire un peu de com et il le fait très très bien parce qu'il sait qu'il reste une chance que Neymar reste au Paris Saint-Germain. Et ça, il est obligé de laisser cette porte entrouverte voilà. Comme tu l'as bien dit et comme Momo Bouafsi, comme Mohamed Bouafsi nous l'a bien expliqué. Donc aujourd'hui, encore une fois, il gère assez bien un dossier qui est ultra compliqué. Donc moi je lui tire mon chapeau. On ne sait pas comment cette telenovela brésilienne va se terminer. En tout cas, je pense que le rédacteur en chef et le directeur, qui est Leonardo, a toutes les cartes en main et il essaiera de les jouer le mieux possible.
Les gars,
je peux pas mieux faire.
Les gars, franchement, ça, Leonardo, j'ai
rien. Est-ce qu'il excite le chaland en disant finalement on va peut-être le garder? Est-ce que ça excite le Barça?
Il est obligé.
Il y a une chose qui est évidente, franchement, quand tu vois tout ce qu'il dit. Il y a deux choses. Alors, Kevin a raison sur un point, c'est que Leonardo gère ça d'une main de maître depuis le départ. Mais très franchement, c'est évident. T'as un joueur qui a un pied qui est pourri. Il y a tout le monde qui a la rumeur, tout le monde se demande quel est son état de forme physique. Tout le monde se demande s'il va être capable de jouer une saison entière. Tout le monde se demande dans quel état est son pied. Tout le monde se demande s'il a encore le physique d'un sportif de haut niveau.
Ça, il y a répondu.
Le deuxième point.
La blessure est complètement.
T'as un joueur, quand tu le prends aussi pour l'image. Ce qu'il représente. Parce que c'est des opportunités marketing qui sont énormes. Mais faut bien ouvrir les yeux si on est marre. Depuis la dernière Coupe du Monde, son image, elle dégringole en chef, en flèche. Faut se rappeler, hein, après ce qui s'est passé après la Coupe du Monde, dans les stades, en Amérique latine, les joueurs qui faisaient le challenge des marres en se roulant par terre pour savoir qui faisait le plus de tonneaux. Là, très franchement, ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, son image, elle est écornée. Et moi, ce que je vois, c'est que Leonardo, en fait, il vient. C'est le mec qui met un truc en vente sur le bon coin. Un truc dont plus personne ne veut au prix qui est affiché. Un truc qui est un peu has-been. Parce que ton produit, il a fait n'importe quoi. Il s'est mal comporté. Il s'est comporté comme un sale gosse qui mérite une fessée cunio au lit. Mais tu lui as pas mis, donc il en a encore rajouté. Et là, en fait, ce qu'il veut, c'est juste le vendre. Parce que c'est Neymar. Oui, c'est le cadeau pourri que t'as entre les mains. Et que très franchement, pour arriver à le vendre à la somme à laquelle tu veux le vendre, il faut un petit peu lui mettre un coup de brosse. Le coup de brosse parce que il a son état physique qui pose question, et t'as surtout tout un stade qui s'est révolté contre lui, t'as une image qui est totalement écornée, et si tu veux en tirer les 200 ou 220 millions d'euros, t'as intérêt à, tu vois, lui mettre un petit coup de restum sur les coins, bien lustré, parce que là, très franchement, Neymar à 200 millions d'euros, plus personne n'en veut. Mais plus personne n'en veut.
Parler au Messi. Le souci, c'est que
et Suarez, ouais.
Rakitic dit je veux pas y aller, je veux pas me rabaisser entre guillemets, pardonnez-moi, mais à venir au Paris Saint-Germain. Coutinho, t'as l'impression que c'est la marionnette. Les propos qui sont fort intéressants, parce que chaque mot est choisi chez Leonardo. Neymar est un bon garçon. Alors les supporters disent enfant gâté, mais là est un bon garçon. C'est une façon de remettre de la hiérarchie là-dessus. T'as 27 ans et non, mais en fait il sait pas trop ce qu'il fait, il sait pas trop ce qu'il veut.
C'est un bon garçon parce que tout le monde pense que c'est un sale gosse qui fait ce qu'il veut et qui chie sur les clubs qui l'emploient. Il est obligé de dire ça, Leonardo. Là pour l'instant, je te disais, l'image de Neymar c'est quoi? C'est un joueur tout le temps blessé et qui se comporte mal. Là il arrive, il dit quoi? Il dit Neymar, les plus grands spécialistes sont regardés, il est en pleine forme et puis il se comporte bien. Mais il a raison de faire ça.
Jonathan,
faut pas dévaluer son produit.
Jonathan, là tu parles avec la passion. Alors pas forcément ta passion pour le Paris Saint-Germain, mais tu parles avec ta passion de supporter. Maintenant, lui, Leonardo, c'est tout sauf un supporter. C'est un businessman. Il est là pour gérer le cas et donc il le fait très bien. Maintenant, tu me dis que j'ai connu des coéquipiers au haut niveau qui ont eu cette blessure. Ils ont même eu des deux pieds, mais ils ont continué de jouer au foot.
Kevin, ils sont pas fait soigner pareil.
Non, mais tu peux pas dire que son pied, je peux te dire qu'aujourd'hui la médecine, on est tous bien placés pour le savoir, fait des miracles, fait des choses.
Le pied n'est pas pourri ou il est trop obnubilé par ses bobos.
Non, mais il s'est reblessé parce que il a eu aussi.
Il a été mal soigné, Kevin.
La première fois, il a été mal soigné. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être speedé sa récupération pour la Coupe du Monde, etc., etc. Mais la deuxième, on peut pas dire que là il s'est speedé.
Mais il n'empêche qu'il reste un doute.
Oui, mais il y a toujours un doute.
Le doute subsiste.
Il y a toujours un doute.
Non, mais Kevin, quand t'es un club et que quand on demande une somme assez importante,
moi j'ai jamais eu
quelques garanties.
Mais franchement, le métatars, c'est pas les croisés.
Il peut garantir. C'est 200 millions d'euros
sans remettre.
Franchement, mais attends juste pour ce que je dis.
Tu dis que Neymar c'est pas un bon garçon.
T'as raison. Quand tu dis que Leonardo fait du business, t'as raison. Mais justement, ce qu'il fait, c'est pas un truc de supporter. C'est fait totalement du business. Il a un produit. On parle en termes économiques.
Mais faut aussi que les supporters le savent.
Il a un produit qui est dévalué. Il fait du marketing.
Ouais, mais attends. Si les supporters du PSG aiment leur club, même si ils réagissent avec la passion, et ça on peut le comprendre.
Ils ont raison.
Mais oui, mais il y a un moment, il faut qu'ils pensent club. Il faut que les supporters aussi pensent club.
Bah justement, ils pensent club, les supporters, ouais. Les gars. Ils pensent club. Il y a un mec qui chie sur la tronche de ton club. Tu lui mets la misère.
Jonathan, encore une fois, excuse-moi de te le dire, tu réagis comme un supporter là.
Non, tu réagis comme un supporter.
Parce que
le foot, c'est ça.
Parce qu'un supporter, il peut aussi se dire attention. En conspuant Neymar, je fais perdre de la valeur à un actif de mon club.
Kevin, je suis d'accord. Attends, juste, il a raison, parce que c'est intéressant.
Michel, t'as raison là-dessus.
Je dis pas qu'ils ont tort, mais faut faire attention.
T'as raison là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi des actifs qui sont immatériels à l'image de l'image de marque d'un club, et que Neymar a beaucoup dégradé cet actif qui est immatériel.
Tu penses que pour l'image de marque du PSG, ce qui s'est passé ce week-end, c'est bien?
Je pense que c'est bien, oui.
Messieurs, il y avait un président qui disait, Michel Denisot disait, tu perds un joueur ou un joueur, la situation est cristallisée, elle est morte, faut pas perdre et le joueur et l'argent. Il faudrait au moins un joueur plus 100 millions. Mais le Barça dit niette.
130 ou 100 alors du coup
c'est, alors on est, autour de, on est autour de la moitié de ce qui était demandé
parce
au
que
début.
130, donc, c'est la moitié de 220.
C'est ça, c'est ça. On est autour de donc 120, 130, entre 100 et 130 millions d'euros. Ouais. Et par contre, le Paris Saint-Germain exige que ce soit en cash, pas en paiement en plusieurs années, comme ça peut arriver dans les transactions entre clubs. Donc ça serait une somme qui irait de 100 à 130 millions d'euros, plus un joueur, voire deux. Et comme tu le disais très bien, Thomas, lorsqu'il s'agit du Barça, Semedo, qui aurait pu être une cible pour le Paris Saint-Germain, le Barça met un veto dessus. Et puis, les autres joueurs, il y a un flou aussi.
Pourtant, Rakitic, Coutinho. Semedo, petite info, Oussem, mais Semedo, il serait pas contre quitter le Barça.
Mais là, oui, bien sûr.
Messieurs, au 32-16, Arthur, comment analyses-tu les récents propos de Leonardo ? Salut Arthur.
Salut Arthur.
Bonsoir Lacteur, bonsoir Thomas, bonsoir Kevin, bonsoir Jonathan et bonsoir Oussem.
Salut.
Salut Arthur. Oussem.
Et bonsoir Oussem, Cyprien qui prépare cette émission. T'as fait le tour, merci.
Ouais, j'attends toujours la visite d'Oussem à Saint-Germain. Petit délire sur Twitter, je t'attends toujours.
Je viendrai quand.
À Saint-Germain où ?
Je viendrai à 13h quand la sonne de Saint-Germain sonnera.
À Saint-Germain où ? Saint-Germain,
non, il viendra
Saint-Germain la ville ou Saint-Germain le quartier ?
Saint-Germain en
l'air. Le pauvre, il viendra le 3 septembre. Là, il bosse d'arrache-pied avec le Mercato jusqu'au 2 septembre.
Je viendrai.
Alors, j'ai encore deux jours de stage. Donc, Oussem, t'as encore deux jours pour venir.
Je reviendrai, bien sûr.
Alors, Arthur, les propos de Leonardo, tu les ressens comment ?
Oh bah pour moi c'est de la communication et de la communication intelligente parce que il peut pas réagir comme les supporters en disant que Neymar doit partir, qu'il cherche à le vendre absolument. Neymar en fait Leonardo communique vraiment intelligemment parce que s'il montrait à tout le monde que lui non plus n'en voulait plus, bah personne ne va mettre 100 ou 200 millions sur lui.
Bien sûr.
Les clubs intéressés donc ça ne désintéresserait toujours pas Barcelone ou le Real, mais bon, il viendrait proposer des sommes dérisoires, un petit peu comme
c'est ce le tarif
que propose le Barça en ce moment.
Est-ce que tu sens quand même un volte-face ? Parce qu'il y a 15 jours, c'était il va falloir qu'il rentre dans le rang, qu'il se taise et qu'il comprenne de ses erreurs.
Bah oui, Neymar, je pense qu'il a plus rien à comprendre. Je pense que on sait même pas ce qu'il pense. Neymar ne communique jamais, à part pour dire que son meilleur souvenir. C'est le moment où il a fait voler le club avec qui il est sous contrat en ce moment. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire.
Tu sais, Olivier, je te coupe, excuse-moi.
C'est Arthur.
Je m'appelle Arthur.
Pardon Arthur, excuse-moi. Arthur, donc, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est très important chez vous, et je suis persuadé qu'il voudrait, mais à 1000%, que Neymar reste. Tu sais de qui je parle ou pas?
Je vais deviner.
Quelqu'un qui est quasiment le plus important. Hein.
Il est numéro 7.
Tourelle.
Ouais, voilà, t'as aussi, tout compris. Tourelle, je sais pas si vous êtes au courant, les gars, mais
après la conférence de presse,
il veut absolument que Neymar reste. Est-ce que pour vous, alors supporters, ou est-ce que pour nous, analystes, ça peut être important ? Je pense que oui, quand même.
J'en dormirai pas la nuit. Tu le crois vraiment complètement ?
Mais attends, mais je sais pas si vous rendez compte. Je pense qu'en France, en fait, on a oublié qui est Neymar, en fait.
Je pense qu'on sait pas qui est Neymar. Top 3 mondial, top 5 mondial.
Mais aujourd'hui, le PSG a un joueur qui a pas forcément la valeur marchande qu'il avait au départ. Vous savez ce que j'en pense. Maintenant, il est chez vous. Alors je dis pas qu'il s'est bien comporté. Je dis pas qu'il faut l'applaudir, l'acclamer, l'encenser. Sûrement pas, parce qu'il faut quand même qu'il comprenne qu'il est dans une institution qui l'a très très bien mis, qui lui a donné de très très belles conditions de travail, voire plus, et qu'il doit la respecter. Oui, ça c'est clair.
Cette période là, mais l'entraîneur déjà ressemble à la période avec ça, le Barça d'il y a deux.
Ça, l'entraîneur ça, veut le garder, les gars. N'oubliez pas.
Sauf qu'il y a une chose, c'est que aussi fort soit-il, parce que c'est vrai, je pense qu'on a tendance à oublier que c'est un joueur qui peut te faire gagner à lui tout seul des matchs décisifs de Ligue des Champions. T'as pas abaissé ton froc pour un joueur comme ça.
Liverpool, le vainqueur de la Ligue des Champions,
vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il a dit. Si tu le récupères, tu baisses ton froc.
Attends. On a demandé au PSG d'avoir beaucoup plus d'autorité depuis des années. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui ils doivent baisser leur froc. Personne ne dit ça. Maintenant, faut avoir quand même l'intelligence.
Tu baisses ton froc.
Faut avoir quand même l'intelligence de savoir que si tu ne peux pas trouver un arrangement qui met en valeur le PSG ou qui arrange le PSG, il va pas falloir le brader non plus.
Si tu gardes. Tu là, c'est ridicule. Mais si
Arthur,
tu le gardes,
je te remercie et je passe tout de suite à Nassim qui.
Salut
Arthur.
Nassim. À bientôt, Oussem.
Salut Arthur. Ciao. Nassim, t'es avec nous, t'es en adéquation avec les propos de Kevin. Tu dis malgré tout.
Bonjour.
Faut pas oublier le niveau de Neymar.
Évidemment. Et c'est toujours ça le véritable problème. C'est que si Neymar il vaut autant, c'est pas pour rien. C'est que c'est Neymar. Et comme vous avez pu le dire il y a quelques secondes, Neymar, ça reste l'un des trois meilleurs joueurs au monde. Quoi qu'il ait pu faire.
Cinq.
Non, trois.
Ça se discute, franchement, ça se discute.
Tu mets qui devant Neymar?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec tous les arguments que vous avez donnés.
Griezmann.
Griezmann avant Neymar.
Ah, oui.
Non.
À 100%
pour ce qu'il apporte au collectif.
À 100%
pour ce qu'il apporte au collectif. Oui.
Ok, bon, chacun son.
Pour son apport collectif.
Bah attends, une fois qu'ils vont être en face à face au Barça, on va tout de suite pouvoir voir ce qu'il en est.
Autant j'adore Antoine Griezmann, mais il sera sur le banc et il regardera
Neymar. Tu vois, je préfère avoir Kevin De Bruyne, même c'est pas le même profil que Neymar. Non, je préfère un De Bruyne, Kevin De Bruyne à son quand s'il est pas blessé que Neymar, par exemple.
Nassim, est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que quelqu'un est capable de débourser cette somme demandée par le Paris Saint-Germain?
Non, personne. Personne ne peut payer. Il y a personne qui peut payer. De toute façon, dans tous les cas, pour moi, je le disais à Roland il y a quelques semaines. Avec Roland Courbis, j'ai eu le débat avec Roland à l'antenne et je lui disais, je exposais les mêmes arguments. Je lui disais que personne ne peut payer Neymar et que Neymar restera au PSG.
Le Real peut le payer.
Moi, j'y crois pas de tout ce qui se dit sur les
échanges. Non, mais je suis d'accord. Mais le Real peut le payer. Si on parle juste depuis de surface financière, le Real peut le payer, je pense.
C'est vrai.
Et alors, je pense que c'est le seul club. Mais... parce qu'attendez, juste, on va faire une aparté. Oui. Parce qu'on a, ça aussi, ça m'énerve un petit peu ces derniers jours. On a beaucoup tapé sur le Paris Saint-Germain quand ils ont pris Mbappé et Neymar. On a beaucoup tapé sur le PSG quand ils ont pris Mbappé et Neymar. Mais là, si le Barça arrive à faire venir Neymar, j'aimerais bien qu'on regarde l'état de leur compte, sur le mercato. Leur balance commerciale, je sais pas exactement comment on a dit. Mais j'aimerais vraiment que, tu vois, les vierges effarouchées qui se sont dit, putain, le Paris Saint-Germain dépenses, dérègle le marché. J'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à ce que fait le Barça
quand
pour
les
Merenguettes annoncent,
nous on a 500 millions parce qu'on a
parce qu'ils ont pas acheté depuis 5 ans. Mais le Real, le Barça, ils ont acheté des Dembélé, ils ont acheté des Malcolm, ils ont acheté des Coutinho, ils ont fait pleuvoir. Tu vois la machine. Franchement, je me demande.
Et ils ont acheté Dembélé et Coutinho avec l'argent de qui?
De Neymar. Mais non, mais ça fait plus. D'accord. Kevin. Dembélé et Coutinho, non, on dépasse largement.
T'as répondu à ma question.
Non, c'est Neymar, c'était 220. Coutinho, c'était combien? 180?
On est à 120 et 150 pour le.
Ça les passe, ça dépasse largement. Oui, plus Malcolm, comment il s'appelle le Hollandais, la merde?
De Jong.
De Jong. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à comment le FC Barcelone peut se permettre de dépenser autant d'argent. C'est tout. Parce que c'est trop facile de taper toujours sur le PSG.
Ça arrivera après coup, Jonathan, de toute
façon. J'aimerais bien, j'espère.
Nassim,
mais t'as vu les recettes du Barça?
Ah, regarde les dépenses, Kevin.
Non mais d'accord, mais les recettes, tu me parles des dépenses.
Le différentiel est quand même énorme. Et le salaire, regarde la masse salariale. Salariale du FC Barcelone. Non, franchement, il y a un truc qui est louche. Je t'assure, regarde les chiffres. Regarde le chiffre de la masse salariale. C'est hyper. La masse salariale du Barça, c'est pas un peu curieux?
Mais tu prends le top 5 européen, la masse salariale est curieuse aussi. Donc je pense que c'est un peu tout le monde. Et le fair play financier ne loupe pas comme n'a pas loupé le PSG, ne loupe pas le Barça.
Messieurs, un dernier mot avec Nassim. Nassim, si Neymar reste au Paris Saint-Germain, est-ce que tu te range derrière ces banderoles hostiles ou tu passes l'éponge?
Non, mais personne ne doit passer l'éponge. Hein. Moi, je demande pas à ce que. Juste après, je te laisse répondre, mais moi, je suis pas là en train de demander à ce qu'on passe l'éponge quoi que ce soit. Je suis en train de dire que jusqu'à ce qu'il ne soit pas vendu, attention quand même à ne pas dégrader l'image du joueur et à ne pas faire le jeu justement du Barça en conspuant Neymar de façon vraiment exagérée entre guillemets
et de le mettre en position de force
par rapport à votre club à vous. Voilà, moi c'est ce que
enfin,
je pense.
Il va avoir des excuses à faire, que ce soit à Paris ou on l'attend en Catalogne pour des excuses. À un moment, il faudra qu'ils disent désolé les gars.
Les excuses de Neymar à Paris, je les attends quand même.
Les excuses. C'est les supporters de Liverpool, mais c'est pas mal.
C'est les gens même qui sont à Liverpool.
Merci beaucoup, Nassim.
Pas de souci.
Il faudra effectivement qu'on regarde les rentrées et les sorties, parce que ces histoires de FPF, ces histoires de fair play financier, elles sont quand même sorties quand les deux clubs du Classico commençaient à faire.
Un dernier mot, messieurs, sur l'interview que nous a accordé Leonardo. Et encore une fois, on le voit depuis la prise en main du dossier de la part de Leonardo. Ouais. C'est une communication totalement maîtrisée de sa part, et il joue avec les éléments pleinement, que ce soit le Barça ou le Real ou Neymar. C'est lui qui décide du tempo des négociations.
Mais sur Twitter, là, j'aimerais bien que nos tweetos nous envoient la masse salariale du FC Barcelone et le différentiel achat-dépense depuis le transfert de Neymar. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même assez extraordinaires.
Certains ont une carte de presse et en fait, les sources de Jonathan, c'est « Mais allez-y, hashtag RMC Live, on va jeter un coup d'œil ». On va vous offrir une troisième vision de la chose, un troisième prisme avec Thomas qui est avec nous. Certains disent « On l'oublie », d'autres ont dit « Qu'il y aille, on passe l'éponge ». Thomas, tu dis « Les champs, c'est vraiment bénéfique pour personne ».
Non, salut les gars.
Salut
Tom. Non, les champs. Moi, je pense que déjà Neymar a tout fait en fait pour créer cette situation. C'est-à-dire l'échange qu'il y a eu contre Nîmes dimanche dernier, il a créé en fait ce climat hostile pour on va dire favoriser un départ.
C'est pas faux.
Après par rapport à ce qu'a dit Leonardo, moi il a fait du Leonardo, c'est-à-dire très clair, net et précis. Et d'ailleurs au passage, je pense que c'est notre meilleur recrue pour le moment.
C'est sûr.
Et puis en fait voilà, ce qu'il dit aussi, c'est que il y a une éventualité, vous en avez parlé, pour qu'il reste. Et il est en train, si vous voulez, d'essayer de revendre Neymar en disant c'est quand même un bon garçon, etc., etc. Ça veut dire que dans le cas où il reste, enfin messieurs les supporters, cesser peut-être les banderoles à terme, c'est-à-dire que bon bah moi là je vais aller à Rennes dimanche, mais peut-être arrêter un petit peu les banderoles en tribune, etc., etc. On va dire faire renaître, on va dire, un climat un peu plus sain pour qu'il y ait cette éventualité qui reste au PSG en fait, et parce qu'elle est pas impossible. Et après si je me mets dans une position que de non supporter, les deux auditeurs précédents l'ont dit, c'est quand même un top joueur mondial. Ouais. Avoir Neymar ou ne pas l'avoir dans son équipe, c'est quand même ça change tout.
Eh ben,
ça change tout.
Écoute, c'est bien, va prostituer ton honneur et ton ego de club et d'institution comme ça pour un joueur qui certes est très talentueux mais qui te manque de respect depuis 2 ans maintenant. Moi j'ai du mal à comprendre ce genre de position, je suis désolé.
Regarde,
alors, je suis d'accord avec Kevin et toi.
Il est mal parti du Barça.
Je suis d'accord avec Kevin et toi. D'un point de vue rationnel, vous avez raison, de faire les champs, etc., c'est dévaluer la valeur du joueur, ça le met dans une position de force, je suis d'accord. Mais une chose qui s'achète pas, c'est d'avoir un petit peu d'ego, un petit peu d'honneur. Le Paris Saint-Germain est un grand club qui a une histoire qui est quand même riche, et de voir se prostituer d'accord. comme ça pour
Jonathan,
un joueur, je trouve que c'est quand même dommage.
Jonathan, je te pose une question. D'accord. Ronaldinho, est-ce qu'il a respecté le PSG? Oui ou non?
Il a pas dérespecté le PSG dans les mêmes largeurs que Neymar a fait jusqu'à présent. C'est incomparable les deux cas.
D'accord. Il a été professionnel, il a tout donné pour le PSG, il avait une hygiène de vie qui respectait ce qu'il gagnait et ce qu'il devait faire
Kevin,
pour le PSG.
C'est incomparable, les deux cas sont incomparables.
Bah, en tout cas, moi, c'est le chemin inverse pour l'instant. Hein. Ronaldinho, on le rappelle, pour les plus jeunes,
moi,
est parti ensuite
pour moi,
au Barça.
Faut pas,
mais dans les deux cas, c'est pas bien.
Les gens oublient trop. Tu crois que Zlatan, il a toujours respecté le PSG?
Ah, sur le terrain et d'un point de vue de son professionnalisme, oui. Alors après, il a eu des phrases qui ont, parce que voilà, c'est son personnage, mais je suis d'accord. Mais pareil, je suis d'accord avec toi. Il a pas toujours respecté le PSG.
Donc quand il dit c'est un bon garçon, c'est-à-dire qui sait comment sont les stars aujourd'hui.
Alors attends,
c'est le football qui les a créés comme ça.
On peut ne pas l'accepter, Kevin.
On peut ne pas l'accepter. Mais à partir du moment où le PSG décide d'investir sur Neymar, tu sais ce que tu prends.
Moi, je n'accepte pas. Je préfère plus de Cavani et moins de Neymar.
La seule équipe qui a battu Liverpool en Coupe d'Europe.
Ouais, c'est en phase de poule, ça veut rien dire.
Non.
Mais les gars, n'oubliez pas que
Neymar, quand il est là,
vous me dites sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui me disent que sur le terrain, Neymar n'a pas respecté le PSG. Mais ça c'est n'importe quoi.
T'as raison de le dire.
Il a été le joueur le plus productif qui a porté le maillot du PSG.
Le plus productif de tous les temps.
Non. Il a été le plus productif
du débat, c'est même
en termes de passes décisives et de buts.
C'est mieux que Zlatan parce que Neymar a été là dans des matchs importants.
Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Neymar? Il a été blessé. Je le répète semaine après semaine. Il a été blessé.
Mais c'est par quoi? Par le ciel qui est gris à Paris, on n'y peut pas grand-chose.
Juste, de façon extra-sportive, il n'a pas été à la hauteur. Mais ça, il y en a plein qui n'ont pas été à la hauteur.
Sur
le terrain, à chaque fois qu'il a eu le maillot du PSG, il a fait ce qu'il savait faire. Peut-être de façon un peu trop extravagante des fois, mais il a toujours tout donné et surtout, il a toujours été performant.
Pourquoi tu dis trop extravagante?
Non, mais je veux dire, des fois, il a tendance à moins respecter
l'attitude de Messi qui dit rien pour Griezmann, de Piqué qui dit faut qu'il parle. Et du côté du Barça, les joueurs qui s'expriment, ça vous
semble justement, moi, je faut arrêter de penser que Neymar n'a pas respecté le PSG sur le terrain. Il s'est blessé 2 ans de suite. C'est un peu la poisse. Ça, je suis d'accord. Mais quand on me dit, il a pas été décisif au moment où on avait besoin de lui, excusez-moi les gars, il a juste été blessé, en fait. Il n'est pas resté au Brésil.
T'as raison, parce que c'est deux débats totalement différents.
Voilà, on est d'accord. Mais il y en a trop qui confondent, je trouve.
Avec la sélection, la récurrence des blessures aussi agace. Les médias brésiliens sont
complètement. Il est blessé en 2014, il prend un coup de genou dans le dos.
Tu finis par dire,
il prend un coup de genou dans le dos.
Et pour le défendre,
c'est pas de sa faute.
Il prend un coup de genou et il revient et il porte le Brésil et il les amène à la victoire aux Jeux Olympiques en étant vraiment au-dessus. Par contre, là où
il a fait bien, mais faut pas abuser.
C'est qu'au Brésil, les gens en ont marre aussi de son comportement. Au Brésil, les gens en ont marre de son comportement. Et le problème, c'est qu'en sélection, c'était un petit peu. Comment? Excuse-moi.
Soyons pragmatiques, Thomas, on revient à ça.
Il faudrait que ce soit réglé assez vite en tant que dans le sens où si tu gardes Neymar, pour moi, ça veut dire que ton mercato est fini et que tu vas jouer avec Areola en numéro 1.
Ça c'est tendu ça.
et sans arrière droit. Et si, comme tu l'as, parce que t'as raison, Jonathan, je peux pas te contredire.
Ça me vient avec Cyprien Betou, mais par rapport à cette célérité, on sait qu'il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions le 29 août au soir. Les 25 ou 21, les 25 joueurs, quand est-ce que tu les inscris?
C'est à la fin du mois. À la fin du mois, tous les 23, et même avec les joueurs du centre de formation, parce qu'il faut toujours des joueurs formés au club qui doivent être inscrits. Donc tout doit être fait. Les prêts doivent être déjà faits. Le groupe doit être déjà constitué. Et c'est pour ça que Leonardo accélère sur le dossier depuis quelques jours.
Parce que ça soit réglé cette semaine.
Que tout doit être fait dans les prochains jours.
On nous avait dit le 31 juillet, mais effectivement, maintenant, ça devient le 29 août. Tiens, pour réagir, hashtag RMC Live, Night Hollow nous dit le Barça tient grâce aux emprunts bancaires garantie par leurs actifs. Alors, c'est simple pour l'instant, mais il y aura une limite à tout ça un jour.
Les taux d'intérêt aussi, il faut voir quels sont les taux d'intérêt. On sait que Saint-Etienne, c'est aussi un club qui repose un petit peu sur ce modèle-là et qu'au bout d'un moment, ils ont été un petit peu pris à la gorge. J'espère que le fair play financier s'enquérira du cas du Barça de la même manière dont ils s'enquérissent du cas du Paris Saint-Germain.
Un dernier mot, Thomas, et on referme cette page Neymar.
Ouais, vite fait, une petite parenthèse Barça, parce que moi je suis totalement d'accord. Je sais pas comment ils font, parce que déjà Griezmann, ils ont quand même fait un prêt pour Griezmann. Ils vont surpayer De Jong, je sais pas combien. Griezmann, il a un salaire assez important aussi. Je sais pas entre.
Pourquoi tu dis surpayer De Jong? C'est quand même la future.
Non, mais je veux dire, ils ont une grosse somme d'argent sur De Jong. Il va prendre un très gros salaire aussi. La masse salariale, je sais pas comment elle est encadrée là-bas. S'ils veulent Neymar, de toute façon, à mon avis, eux c'est une offre et un voire deux joueurs. Sauf que Paris, à mon avis, ils sont intéressés que par un seul joueur. Au Barça, c'est Semedo. Est-ce que le Barça va accepter d'inclure Semedo dans le deal? Je pense que c'est très compliqué. Après, le temps passe, on est déjà le 15 août, Mercato est fini dans 15 jours. Imaginons que Neymar parte, ça fait 15 jours parce qu'il va falloir recruter, hein, puis t'as l'argent pour, du coup, avec
après,
ça.
Après, Thomas, pour revenir sur quatre
bonnes recrues, parce que je pense qu'après, c'est ce qu'il vise.
Thomas, pour revenir sur ce que tu dis, Leonardo avance déjà en amont sur certains dossiers. On sait qu'il avance sur le dossier Dybala, on sait qu'il y a des discussions avec beaucoup de joueurs. On va pas tous les citer, mais il avance déjà sur le mercato dans l'éventualité où il y a un départ.
Parce qu'il fait bien son travail.
Mais surtout, ce qu'il faut retenir, et je le rappelle, messieurs, c'est le virage qui a été pris aujourd'hui où la porte est entrouverte.
Oussem, est-ce qu'on peut vraiment dire que la porte est entrouverte? Moi, je pense qu'il remet un petit coup de brillantine sur la tête de son produit, quoi.
C'est pour ça qu'il va falloir interpréter les messages envoyés par Leonardo.
Merci beaucoup, Oussem Le Saïf.
Quel bel homme.
C'était un beau débat. J'ai aimé être avec vous.
Merci, Oussem.
C'est un débat qui amène un petit peu de frustration.
On veut que l'émission reste encore pendant 4 heures à l'antenne et vous écouter parler de Neymar.
On va être là encore pendant une belle demi-heure et il y a un autre débat qui va amener du soleil dans vos cœurs, je le pense, parce que Monaco est en train de réussir un beau turnover, un beau 180 degrés. On en parle dans un instant. C'est l'after sur RMC.
RMC. L'afterfoot, Thomas Desson.
Accompagné de Kevin Diaz et de Jonathan McCarty, on passe au cas monégasque parce qu'il s'en passe depuis 48 heures. On pensait qu'il y avait cette filière, messieurs, entre Galatasaray et Monaco. Ça y est, Falcao était parti à Galatasaray. Après l'arrivée d'Henry, on y est couru. Et je vois Jonathan qui dit non. Tout d'abord, première chose, arrivée de Ben Yedder. C'est quand même un peu un grand 8, messieurs. Ça ressemble à cette fin de l'hiver avec le Leonardo Jardim 2.0. On avait été en chercher 8, même un 9e avec Georges Kevin Nkoudou, qui est reparti depuis. Et oui, comme tu dis, punaise.
J'en avais eu 9
jusque-là, effectivement. Alors, en vrac, mais est-ce que abondance de biens va nuire ou finalement ne peut pas nuire? Est-ce que Ben Yedder, si Falcao reste, c'est pas le meilleur tandem hors PSG qu'on ait devant? Et enfin, cette histoire d'abondance de biens, est-ce qu'il y aura trop d'hommes au même poste? Mais déjà, Ben Yedder, quel bon coup!
Oui, c'est sûr que c'est un bon coup pour l'AS Monaco. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a de l'expérience, qui est international français, faut pas l'oublier. Un joueur qui a clairement 15 à 20 buts dans les jambes.
Si ce n'est plus.
Ouais. On lui souhaite en tout cas. Et puis en plus c'est un bon professionnel, c'est quelqu'un qui a l'air d'être toujours apprécié dans les clubs où il est passé et qui laisse toujours une bonne image, on vient d'en parler, donc ça aussi c'est important. Maintenant, moi je trouve quand même que Monaco, il y a urgence quand même. Il y a urgence parce qu'ils avaient bien débuté, hein, on se rappelle de l'épisode sous Mauro, il y a eu André Silva, bon finalement ça s'est pas fait, mais ils étaient à l'époque, je trouvais qu'ils étaient dans le bon timing. Maintenant, On est déjà en fin de préparation, on arrive mi-août. Comme j'ai dit, il faut pour quand un joueur arrive dans un nouveau club, il faut quand même qu'il s'adapte à ses coéquipiers, à la façon de travailler de l'entraîneur. Et vraiment, il faut que Monaco fasse tout pour enchaîner dans ce mercato pour pouvoir ne pas prendre de retard comme ils l'ont fait la saison dernière.
Et la dernière fois, quand on parlait de Monaco, on avait deux points de vue différents. Kevin, moi, je te disais qu'il fallait pas s'inquiéter parce que le marché anglais avait déréglé un petit peu le fonctionnement du mercato de cet été. Là, tu vois, je pense que prendre Ben Yedder, c'est quand même une belle réaction. Tu prends quand même un œuf qui compte sur la scène européenne. Et je continue de pas m'inquiéter pour Monaco avec une seule réserve. La seule réserve, c'est que je continue de penser que le mercato anglais a tout décalé et que donc il faut être un petit peu patient pour que les effectifs de Ligue 1 finissent de peaufiner leur effectif, leur recrutement. Par contre, là où je m'inquiéterais, c'est si je vois toujours aucune piste défensive arriver. Parce que l'urgence du côté monégasque, c'est toujours derrière. Alors, là, très franchement.
On dirait Arsenal.
Ouais, mais Arsenal, ils ont quand même recruté David Luiz sur la fin, tu vois, par exemple. David Luiz Socratis, au final, ça tient plus ou moins la route pour la première ligue. Alors là, pour l'instant, moi, je leur donne un bon point parce que très franchement, prendre Ben Yedder, c'est un coup qui est inespéré. C'est un des meilleurs neufs en Europe. On a tendance un petit peu le dévaluer en France parce que pas en équipe de France pour des raisons XY que j'ai toujours du mal à en comprendre. Mais c'est un joueur qui a largement le niveau.
Il y vient de plus en plus. Il y avait le gabarit.
C'est un joueur qui avait le niveau pour au moins aller à la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a un profil rare. C'est un joueur qui a une assurance au risque sur le nombre de buts marqués en Ligue 1. En Espagne, ça a pas toujours été facile pour lui. Il partait pas toujours titulaire dans le poste d'entraîneur. Elle a toujours réussi à mettre le pied dans la porte et à finir par s'imposer à la fin des saisons avec un nombre de buts considérable. Maintenant, pour que je sois vraiment rassuré sur Monaco, c'est on leur laisse le temps de travailler. On va attendre la fin du marché parce que tout se déclenche tard, mais faut recruter derrière.
On parle de l'association potentielle Ben Yedder, Radamel Falcao dans un instant, mais d'abord Jardim. Est-ce que Falcao reste? Qu'est-ce qu'il en pense, le technicien monégasque? On a Leonardo Jardim à propos de Falcao.
La friture sur la ligne, non?
Non, c'est moi qui n'ai pas prévenu Cyprien Bétou.
C'est la traduction qui prend du temps à charger. La traduction du français de Jardim
sur le cas Falcao.
Bien sûr, ce sont deux joueurs compatibles, jouer devant l'attaque.
Mais bien après, sûr, nous avons besoin de
quelqu'un pour un remplaçant pour replacer 7-2. Parce que ce n'est pas pour replacer les attaquants pour le défenseur central. Pas très joli.
Ça, c'est l'association. Joli. Alors, effectivement, on pensait que c'était un lion, un chimbom à Galatasaray.
De te moquer de Jardim.
Est-ce que Ben Yedder ferait ce rôle de 9,5 autour de Falcao? Oui,
c'est clairement possible.
Cette compatibilité-là, vous la voyez?
Ouais, et puis Falcao, il peut régaler aussi Ben Yedder avec ses déviations, avec son jeu en pivot. Ben Yedder, il va prendre la profondeur. On sait que Falcao, c'est forcément plus trop sa capacité, mais en tout cas c'est vrai que ce serait clairement comme l'a dit l'entraîneur un bon duo.
Quand Falcao a ses blessures,
s'il reste,
quand Falcao a ses blessures et qu'il part en prêt en Angleterre, machin et tout, il revient à Monaco. Et au final, Monaco est champion. Mais on avait dit Falcao au final a changé un petit peu son style de jeu. Il a été intelligent pour voir qu'avec ses blessures, il pouvait pas avoir le même dynamisme, faire les mêmes appels en profondeur, avoir la même tonicité qu'il avait avant. Et là, on le trouvait, notamment l'année du titre, très altruiste, capable de jouer en pivot, capable de jouer en remise. Et franchement, sur le papier, Ben Yedder Falcao, c'est complémentaire et ça a de la gueule, quoi.
Il y avait le meilleur neuf du monde quand il était à l'Atlético Colchonero. Et puis ensuite, effectivement, il y a cette mauvaise étape.
C'était soit lui, ça se joue entre lui et Cavani quand Cavani est à Naples. Ça,
mais c'est vrai que
marché là.
Moi, je me souviens le retour de la Ligue 2 à la Ligue 1. Il y avait ces grandes stars. Lui, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que c'est cadré à chaque fois aux entraînements. Enfin, il n'y a pas de fioriture. C'est très efficace. Ce serait quand même une énorme perte pour Monaco. Il a été chercher des points cette année. Deux points au-dessus du premier barragiste, le DFCO, parce que Falcao a quand même encore su sauver quelques trucs.
Ouais, mais il y a un facteur, et alors là, ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est le même facteur que pour Edinson Cavani, hein, c'est que les deux arrivent un petit peu en même temps en Ligue 1, même la même année, il me semble, c'est que c'est des joueurs qui ont largement passé la trentaine, et si tu peux encore en tirer quelque chose, c'est maintenant.
Ouais, exactement.
Mais 33 ans déjà, l'âge du Christ pour Radamel
juste
Falcao.
Juste pour finir, un souhait, et je touche du bois, parce que cette saison, j'espère que ça se matérialiser. Je pense que pour moi, le plus beau duo qu'on pourrait avoir à l'AS Monaco serait Ben Yedder, Jovetic. Mais Jovetic, malheureusement, est toujours blessé. Donc j'espère que cette année, Jovetic va être capable d'enchaîner les matchs.
On parlait de basket avec France-Monténégro, mais alors là, Jovetic, il joue 8 matchs par
an. Jovetic, quand il peut jouer, c'est un joueur qui est délicieux.
Bon, au 32-16, Christophe, qui lui préférait voir Ben Yedder et Falcao, non, Christophe? Salut à toi.
Oui, on reste de cette association. Bonsoir messieurs, pardon, excusez-moi, bonsoir. Oui, je vous écoutais attentivement. Quand on est supporter de Monaco, il y a encore 2-3 ans, on était champion de France. Et vu la saison qu'on a passée l'année dernière, bien sûr qu'un duo Falcao-Ben Yedder, ça fait rêver pas que les supporters monégasques, même le champion de France.
Hein, ça, ouais.
voilà, hein, même tout le monde, tous les amateurs de foot. Par contre, j'y crois pas à Falcao qui reste, quoi. D'après ce qu'on entend, d'après ce qui s'exprime, il y a beaucoup de rumeurs avec ce club de Galatasaray qui va sans doute faire le forcing aussi. Où Monaco arrive à négocier une deuxième année de contrat avec le même salaire pour Falcao, et je pense qu'il peut rester. Mais s'il lui propose pas quelque chose de plus, je le vois pas rester, et c'est bien dommage, parce que on pourrait retrouver le fameux 4-4-2 que Jardim avait mis en place, parce que seul
vidéo.
Ben Yedder, j'y crois pas seul, hein, moi, par
contre. Il y a une vidéo émouvante de Wissam Ben Yedder qui dit: mon papa était supporter d'une équipe, mais moi, et il est devant Ludovic Juli, Roten, évidemment, cette épopée 2004, notamment avec le 8-3 contre le Deportivo. Est-ce que l'arrivée de Ben Yedder ne peut pas motiver Falcao à finalement vouloir rester?
Falcao est un très très grand professionnel, et il a prouvé à Monaco avec son retour. Et s'il n'était pas là l'année dernière, je pense que Monaco serait en Ligue 2 sans même passer par des barrages, vu le nombre de buts qu'il a réussi à marquer. Par contre, ouais, il faudrait qu'il y ait vraiment un gros projet derrière. Mais
c'était l'idée d'avoir un joueur qui va tout donner. Je parle de Wissam Ben Yedder pour son club.
Ouais.
Il faut pas recruter que devant, quoi, parce que
au milieu derrière, c'est la priorité.
Ça reste très léger, et défensivement, oui, c'est encore très 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 léger.
Il faut un défenseur central de titulaire de haut calibre.
C'est pas facile à trouver en fin de mercato.
On est d'accord.
C'est ça, parce que
c'est la priorité.
Offensivement, je pense que les armes, ils les ont, avec Golovin, avec le Nigérien, avec Martins. Offensivement, c'est pas ce qui va manquer, quoi.
Mais
Henri Onyekuru, c'est fait, effectivement. Tu parles du Nigérian, c'est le Nigérian arrivé de Galatasaray, avec un rendement correct de 14 buts. Tiens, vous parliez d'un défenseur, il a eu des performances assez sinusoïdales. Lui aussi vous parle du cas Radamel Falcao, c'est Jemerson.
Je crois qu'il va rester avec nous, c'est un grand joueur, né? Je crois qu'il aime jouer à Monaco, et je crois que la direction, tout le monde, les coachs, va faire du tout pour rester, pour nous aider.
Ok.
Grand sourire, tout pour vous aider. On n'a pas l'envers du décor. Est-ce qu'il a été agacé par cette saison trop longue, ou est-ce qu'il y a mieux à Istanbul que sur le rocher, ça?
Non, mais après, je pense que, comme l'a dit Jonathan, c'est un joueur qui arrive maintenant à 33 ans. Il a peut-être envie d'un dernier challenge après une saison dernière quand même qui a dû être compliquée pour lui aussi, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, de jouer la relégation alors qu'ils étaient à la base programmés pour jouer les trois premières places. C'est pas facile. Maintenant, ce qui peut un peu rassurer les supporters monégasques, c'est qu'apparemment quand même son entourage je souhaiterais plutôt rester à Monaco, et ça aussi on sait qu'avec Griezmann notamment ça a joué sur les choix de carrière de certains joueurs. Donc s'il reste, c'est bien pour Monaco. S'il part, bah ils vont quand même recevoir une petite somme d'argent avec un joueur qui il reste plus beaucoup d'années pour être bankable, comme vient de dire Jonathan. Donc c'est un peu win-win situation pour Monaco, même si je pense quand même que dans l'urgence ce serait bien qu'il reste.
Bah oui, et puis sinon il te reste une quinzaine de jours pour trouver un défenseur avec ta somme, je sais pas.
J'aimerais un truc tout bête, c'est qu'il fasse une dernière année à Monaco et qu'il retourne à River et qu'il fasse une belle histoire, quoi, qu'il ait une belle carrière. Non, mais franchement, c'est ça que ça serait c'est ce qui aurait le plus de gueule, quoi. Après, pour Monaco, oui, si tu me dis on parlait de raisonner comme un supporter ou comme un gestionnaire de club, oui, là c'est le moment où il faut
Cavani, lui, ce sera plutôt Miami, hein.
Ouais. Ouais. Bah écoute, on va aller, hein.
Pourquoi pas. Merci beaucoup, Christophe.
Merci messieurs, passez une bonne soirée.
Un élément important au 32-16 avec Loïc, l'épisode récent de Riyad Boudbouz, entre guillemets, qui joue pour son papa Ghislain Printemps avec Saint-Etienne, t'as l'impression que c'est tout trouvé. Et là, Ben Yedder qui te dit c'est mon club de cœur, moi j'ai envie de penser que l'ancienne perle du futsal, Wissam Ben Yedder, va briller, Loïc, avec Monaco, n'est-ce pas?
Bah forcément, c'est une énorme satisfaction pour la majorité des groupes de supporters à Monaco d'avoir un mec que tu sais qu'il va donner son maximum et qui a la motivation d'arriver à Monaco et qu'il avait déjà confié à l'époque au Canal, comme quoi Monaco était son club de cœur, ça fait déjà quelques années qu'on le savait. D'avoir quelqu'un qu'on sait, du coup, qui a une motivation certaine pour jouer pour le maillot rouge et blanc, déjà, ça c'est un bon point. Forcément, donc on attend d'en savoir plus aussi par rapport à ce mercato, vous en parlez déjà depuis quelques minutes. On attend de voir, du coup, quel sera le destin de Radamel Falcao. Apparemment, un accord du coup entre lui et Galatasaray a été trouvé contractuellement parlant. Monaco, si Monaco était amené à le vendre, espérerait récupérer 5 millions d'euros. À voir. Après, comme le disait Jonathan, Jovetic est toujours à l'infirmerie. Pietro Pellegrini aussi est à l'infirmerie. Ouais. Il y a quand même des joueurs. Onyekoro est arrivé.
Ça reste un peu jeune, Pellegrini. Hein.
Il y a quand même des joueurs. Keita Baldé aussi peut être considéré comme une recrue, d'une certaine façon, parce que c'est un joueur non plus qu'il ne faut pas négliger. Mais dans
c'est
l'effectif
un ailier plutôt.
Et qui peut apporter quand même une certaine plus-value dans l'effectif de Leonardo Jardim. Après, il y a en défense, clairement, hein, c'est ce qu'on attend aussi du côté de l'AS Monaco, même si Ben Yedder est une énorme satisfaction. Forcément, défensivement parlant, on attend aussi beaucoup de ce mercato.
Loïc, même si tu recrutes pas devant, t'es bien. Mais tu l'as dit, là maintenant, il faut impérativement que tu te renforces sur ton secteur défensif. Parce que devant, même t'as limite, t'as peut-être trop de joueurs, quoi.
On parle beaucoup de Timoé Bakayoko, qui avait déjà joué, on le sait.
Ah, mais c'est pas un défenseur central.
Du coup, apparemment, en discussion, il y a des discussions entre l'agent et le club, du coup, monégasque, qui sont prévues pour la fin de semaine. Ouais. Et apparemment, Monaco aussi s'est positionné sur Rugani, de la Juventus. Donc, à voir après.
Rugani, je t'annonce un truc. C'est, je pense que, franchement, Sarri en a fantasmé au Napoli. Il en a fantasmé à Chelsea. Là, il a la Juve. Il peut avoir deux lires qui tu veux. Je pense que Rugani, Sarri, là, il est très content de l'avoir et il va tout faire pour le garder.
Par contre, Loïc, il y a juste une chose. Je suis en train de penser à quelque chose. Bon, c'est un peu taquin, mais le dernier joueur de Séville qui est revenu en France pour aller dans son club de cœur, ça s'est pas forcément bien passé.
Mais est-ce que c'était vraiment son club de cœur?
Oh, quand même.
Non, je pense pas.
Ah, mais
je pense que c'était des, tu sais, les violons là comme ça.
Et Naldo,
tu sais de qui je parle,
Naldo,
Loïc.
Ils sont plantés, mais
tu sais de qui je parle, Loïc.
Ben là, je cherche encore.
Adil A.
Ah,
un potentiel toulousain.
Mais je pense pas que c'était son club de cœur, l'OM.
Ben Yedder,
on vous souhaite plutôt une fin à la, une histoire à la Gignac, allez.
Ben Yedder, il a progressé de Toulouse à Séville. C'est-à-dire que le ratio, il est encore meilleur. Ça fait 7 saisons qu'il peut te mettre une quinzaine de buts.
Surtout, le truc, c'est qu'à Séville, à chaque fois, t'as l'impression qu'il partait pas en étant titulaire. Et au final, il a toujours réussi à s'imposer, à faire son trou,
maintenant,
à marquer sa quinzaine de buts, quoi.
Naldo, c'est un flop, c'est une erreur.
Refusé.
Évidemment. Non, mais ma question, c'est Camille Gligui, s'est passé un truc avec la Pologne avant la Coupe du Monde, et pourquoi ce serait fini?
Parce qu'il est rincé physiquement.
Ça a été le meilleur défenseur.
Il est rincé physiquement. Il a fait une saison, une très grosse saison.
Non, mais c'est quelqu'un qui a un physique quand même assez imposant, qui est sûrement très musculeux. Hein. C'est pas, il n'y a pas de notion de surpoids dans mes propos, mais.
Ah si, tu m'as dit que c'était un gros lard tout à l'heure en rantaine.
Non, c'est pas vrai, mais voilà, c'est quelqu'un. Tu vois sur le terrain que au niveau de la motricité, au niveau de la vivacité, ça commence à être compliqué. Laisse-moi juste finir. On sait que la caractéristique des attaquants de Ligue 1, c'est quand même la vitesse. Et quand t'as Jemerson et Glick, ça commence à être très compliqué.
C'est clair. C'est quelque chose qui est vraiment dur à voir aujourd'hui, c'est qu'on se rappelle encore la saison du titre, et on se rappelle que la charnière centrale que l'on avait à ce moment-là, c'était justement Jemerson et Camille Glick.
Ouais.
Aujourd'hui, on voit que Leonardo Jardim, du coup, va aligner sûrement Camille Glick. Apparemment, Panzo est passé dans la hiérarchie devant Benoît Badiachil. Et du coup, il va associer Camille Gluck à un jeune du centre de formation qui, lui, est plus technique et plus rapide. On se dit qu'à l'époque, la chaîne centrale qui a fonctionné, c'était donc Jemerson et Camille Gluck. Ces deux donc vieux briscards qui aujourd'hui ont l'air complètement rincés.
C'est pas un vieux briscard, Jemerson.
C'est
un jeune, Jemerson.
Il a seulement 26 ans.
Loïc. L'année du titre, Jemerson, c'est un peu le jeune qui est associé au joueur d'expérience qui est Camille Gluck.
23 ans, l'année du titre, 24 ans.
Et après, alors, à la décharge de Camille Gluck, je pense qu'une chose, c'est que oui, Loïc, tu le disais très bien, ce qui a fonctionné l'année du titre, c'était non pas le binôme qu'il formait avec Jemerson, mais c'était le quatuor avec Fabinho et Bakayoko qui était devant eux. Il a que 31 ans. Moi, je lui laisse quand même encore une dernière chance avec un joueur de bon niveau qui puisse être dans un autre registre, c'est-à-dire être un petit peu plus rapide. Lui, il a joué sur l'expérience, sur le remplacement, et d'avoir à côté de lui un joueur qui peut prendre la profondeur.
Vous avez déjà un bon latéral droit avec Ruben Aguilar. Il faut continuer sur le dossier des centraux. Voilà, Loïc, merci.
Mais il en faut un, mais impérativement, par contre. Il n'y a pas d'action possible. Il en faut un de très bon niveau.
On est d'accord.
Pourquoi pas aller après retitiller le podium, ou de toute façon ils partent de trop loin. On va finir là-dessus.
Non, mais après en Ligue 1 tout est possible.
Tout est possible.
Ah oui, ils ont quand même un bel effectif, les gars.
Voilà, l'effectif.
Si
devant,
les blessés,
en tout
si
cas,
les blessés reviennent. Si les blessés reviennent. S'ils prennent quelqu'un derrière, tu regardes le 11, c'est pas mal.
Ah, il y a beaucoup d'hypothèses quand même avec l'AS Monaco.
Un top coach aussi.
Mais c'est encore de, voilà, c'est encore de l'affect. Quand on parle de Monaco, quand on parle de Strasbourg ce soir, tout le monde a un petit peu d'affect qui revient pour ses.
Parle d'Amien, parle de n'importe quel club, on aura de l'affect, Thomas.
Oui, c'est vrai.
Mais on aime la Ligue 1.
On parle de façon.
Vive la Ligue 1.
On aime le foot.
Plus récurrente.
Et surtout la Ligue 1.
C'est l'acteur sur RMC. Effectivement, on aime le foot. Un dernier petit quart d'heure et plein de petites infos en vrac sur lesquelles on a envie d'avoir l'avis de nos consultants. A tout de suite.
RMC. L'Afterfoot, Thomas Desson.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan Macardy, avec vous, les auditeurs au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Elle est dans sa 36e année. Quand elle était joueuse, Laure Lepailleur disait, il y en avait certaines qui lui disaient, tu seras la 12e joueuse. Et là, elle a une carrière d'arbitre. C'est un sans faute. De la Ligue 2 à la Ligue 1, la Coupe du Monde féminine, la Super Coupe. Je parle évidemment de Stéphanie Frappard. Messieurs, vous avez regardé ce match entre Liverpool et Chelsea. Il fallait du cran. Elle est restée calme. Beaucoup de mansuétude. Tranquille.
Ouais, de toute façon, les anciennes joueurs ou joueuses qui sont nées en 1983 et qui ont aujourd'hui 36 ans, en général, c'est pas mal. Mais vraiment, elle a fait un très bon match. On voit qu'elle a été joueuse de toute façon. Ça se voit. C'est ce que je reproche, moi, à certains arbitres, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. On a l'impression qu'ils ont jamais joué vraiment au football. Peu importe le niveau. Tu vois, on voit qu'elle sent le jeu. Et ça, ouais. Les joueurs le ressentent sur
c'était
le terrain.
C'était fluide.
C'est fluide.
La vraie réaction normale d'avoir, c'est de dire qu'on en a rien à faire que ce soit une femme. C'est juste un arbitre qui a fait un bon match. Un arbitre français qui a fait un bon match.
Oui, mais voilà. Après il y a bien sûr la petite spécificité. Moi, j'ai déjà été arbitré par une femme. C'est forcément le contact n'est pas le même.
Un bon arbitre. Moi, je m'en fous du reste.
Le contact n'est pas le même, et surtout quand c'est un bon arbitre, et c'est souvent le cas. C'est très bien. Moi, je trouve que cette initiative, et je parle pas que de Frappard, mais ses deux assistantes ont été également excellentes.
Jeannot Rességuier était en entretien tout à l'heure avec elle, et ce poids de l'histoire justement, Jonathan, elle en parle.
On sait que voilà, on a fait un match historique. Après, quand on est arbitre, l'objectif c'est de pas être les stars du match. On l'a pas été. On a pris les décisions qu'il fallait au bon moment, et donc forcément c'est une satisfaction à la fin du match. On savait que sur nos épaules on avait un peu le poids de l'histoire et l'avenir aussi de l'arbitrage féminin sur ce match. Donc voilà, on l'a pris en considération et aussi on a su en faire abstraction.
Alors elle parle de poids de l'histoire par rapport à cette coupe, mais effectivement une autre question de Jeannot, c'était l'histoire de sexe, il faut faire totalement abstraction par rapport à cela.
Et je retiens que c'était un match très intéressant, avec beaucoup d'intensité et au final une belle performance de notre équipe arbitrale. Ça fait partie de la préparation, voilà, de pas faire le match avant le match et voilà, de faire abstraction un peu du contexte et de vraiment être concentré sur le match.
Comme Strasbourg ce soir, qui n'a pas fait le match avant le match contre le Lokomotiv Plovdiv en gagnant 1-0 et qui est qualifié pour les barrages face à l'Eintracht Francfort. En fait, c'est tellement évident, tout va bien, et sa prestation est tellement bonne que next quoi, vous êtes d'accord, il y a rien à dire. Elle est...
Le plus beau commentaire est donné par Jürgen Klopp, je crois qu'il lui a donné 10 sur 10. Ouais, c'est quand on est reconnu par de tels entraîneurs, il y a rien à ajouter.
Alors, on entendait hier, effectivement, elle lève le bras assez vite, plutôt tardivement, pardonnez-moi, justement, sur des hors-jeux, et ça surprend, mais au contraire, elle est dans l'application de la règle totalement exacte aujourd'hui, hein, Kevin. On attend que l'action se déroule pleinement. Si jamais on doit infirmer ou confirmer, il y a le VAR derrière. Elle a joué le jeu, elle a appliqué toutes les règles.
Même si moi c'est pas la qualité de l'arbitrage que je recherche le plus, hein. C'est plus justement d'avoir l'interprétation nécessaire, d'avoir le recul et le jugement footballistique nécessaire pour juger les actions, parce que l'application stricte du règlement, honnêtement, c'est pas ma tasse de thé.
Très bien. Des entraîneurs sulfureux ou avec qui on a de l'affect, vous vous souvenez de son épisode amoureux dans le Maghreb, c'était avec l'Algérie de 2011 à 2014. Il est parti du FC Nantes le 2 août. C'est officiel, 13 jours plus tard, Vahid Halilhodžić entraîne les Lions de l'Atlas, c'est-à-dire le Maroc.
Il n'y avait pas mieux à faire pour la fédération marocaine.
Ils ont reçu Luis Fernandez hier qui a fait un aller-retour.
Il n'y avait pas mieux à faire que Luis Fernandez.
Il n'y avait pas quelque chose de plus sexy.
Il y a une génération qui est quand même une génération de bons joueurs. Tu sors d'une période avec Hervé Renard qui, même si voilà, ça n'a pas débouché sur des résultats, je pense qu'il a quand même construit les bases de quelque chose. Est-ce que tu peux pas avoir un petit peu plus d'ambition pour ton football?
Alors, 41 mois avec Hervé Renard.
Je suis désolé, mais Louis
avec Vaïd, je demande à voir.
Alors, j'entends cette jeune génération. On fait encore, entre guillemets, confiance à un sorcier blanc. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est juste que c'est deux entraîneurs qui sont d'un autre temps, c'est tout. Je veux pas être dur ni avec Louis ni avec notre ami, mais non.
Il y a eu 41 mois pour Hervé Renard. Il y a eu une tentative de construction, élimination des matchs de coupe en Coupe du Monde. Sorti justement de la
sur Louis, je demande peut-être à voir parce que ça fait un moment qu'il n'a pas entraîné et je suis toujours assez à l'écoute quand il analyse les matchs. Je trouve qu'il est toujours assez lucide, qu'il a une bonne vision du foot, donc pourquoi pas. Mais même, je sais pas, essaye d'avoir un petit peu plus d'idées. Va pas chercher Louis ou essaye de prendre un joueur qui soit un petit peu plus un entraîneur qui soit un petit peu plus moderne.
En ayant vu le voisin algérien finalement quand même bien réussir avec Vaïd, puisqu'on se souvient derrière de la campagne ça, de Coupe du Monde.
Thomas, moi ce que j'aurais voulu, c'est qu'il regarde le voisin algérien
voilà
aujourd'hui avec Jamel Belmadi et qu'ils aillent nous chercher, pourquoi pas, un ancien local. International, un joueur qui
t'as vu le footwork joueur. Que c'est aujourd'hui Belmadi, on ne sait pas s'il va de nouveau entraîner ce...
peu importe, en tout cas
il a gagné la CAN, mais regarde le Sénégal, même si le Sénégal nous a pas séduit sur le point de vue du jeu, c'est un entraîneur local, un ancien joueur de la sélection, un joueur qui vient avec l'amour de la sélection. Je dis pas que ni Vaïd ni Louis ont l'amour du Maroc, mais ça fait quand même voilà, ça fait juste pour quand si on dit que c'est Vaïd ou Louis qui prennent le Maroc, ça fait quand même un petit peu opportunité.
Ça répond à ça en fait, faut arrêter avec l'impérialisme qui vient d'Europe. Si on
ne sortons
avec...
pas les grands mots impérialisme, colonialisme, que tu veux.
C'est vrai que c'est pas ton genre, ça.
Non, je fais très attention avec ce genre de termes parce que c'est quand même assez important dans l'histoire de notre pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a l'exemple de l'Algérie, on a l'exemple du Sénégal. Essaye d'aller chercher en local, essaye d'aller chercher un entraîneur qui va connaître le maillage du football local.
Exactement.
Essaye d'aller chercher un entraîneur qui connaît le championnat local, qui va être capable de te prendre, ou même pas forcément local, mais continental, à l'image de ce que Belmadi a fait avec Belaïli, par exemple, ouais. qui joue voilà sur le continent. Mais arrête d'essayer de prendre des mecs en Europe qui viennent juste cacher.
Et ça vaut pour beaucoup de sélections africaines.
Il était présenté par le patron de la fédération, Fouzi Legja. Je comprends néanmoins, sans utiliser de grands mots, qu'on ne fait pas encore assez confiance à ses propres ressortissants.
Et j'aurais espéré que la finale avec l'opposition 100% locale, Algérie-Sénégal, puisse inspirer les autres sélections. Je suis un peu déçu. Parce
incroyable.
Que le Maroc, il est outre Ziyech, qui est un petit peu là. Ouais. Et ça a quand même un vivier qui est assez impressionnant, quoi. C'est dommage.
Le 29 août à Monaco, on espère évidemment que le cas Radamel Falcao sera entériné, ou celui de Neymar pour la Ligue des Champions. Ouais. Mais il y a un autre truc qui va se jouer, c'est le joueur de l'année de l'UEFA, UEFA Player of the Year. Les nommés Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk en lice, qui doit gagner.
Il n'y a pas Neymar.
Non,
c'est les trois là.
Il y en a 11e, 12e.
Je plaisante.
C'est ces trois là. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a jamais eu, évidemment, je vous les donne, ça a toujours été que des offensifs. Iniesta en 2012, Ribéry en 2013, Modric dernier. Et sinon, c'est toujours du Messi ou du Cristiano.
Moi, je vous dis franchement, même si je trouve que c'est toujours très intéressant de voir le Ballon d'Or, et je suis, mais par contre, ça me fatigue. Moi,
tous ces awards, tu veux
dire? Non, pas tous ces awards. Ça me fatigue la façon dont les gens, qu'ont les gens de voir le football. Mais cette année, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi. Ça va. Cette année, c'est Van Dijk, Salah ou Mané. Point terminé.
Voilà,
arrêtez de me sortir des Cristiano, des Messi. Mais bien sûr que c'est les meilleurs joueurs du monde. Ils ont 5 ballons d'or. C'est bon. 5 ballons d'or, c'est bon.
Mais Kevin, pourquoi ils sont nommés?
On va me dire, oui, mais sur l'année, Messi, il est incroyable.
Sur
Ronaldo, il est incroyable. Ils seront toujours incroyables parce que c'est des footballeurs.
On est d'accord qu'ils doivent même pas être nommé.
Mais on est d'accord.
Voilà.
Ça y est, c'est bon, on a compris. Maintenant, on va pas refaire des Iniesta, on va pas refaire, bon, Schneider à moindre mesure, mais on va pas refaire des Iniesta, des Xavi indéfiniment. Ça y est, c'est bon, on a compris.
Riyad Mahrez aurait mérité d'être dans la liste pour sa saison à Manchester City, pour sa victoire à la CAN. Je pense qu'il aurait
parlé des trois de Liverpool pour leur saison sur les deux
saisons. Riyad Mahrez de 2016 avec Leicester.
Peu importe, parce que pour moi, le Ballon d'Or, certes, c'est la saison en cours, mais c'est également l'antériorité de l'avant-dernière saison, de la dernière, tu vois ce que je veux dire. Mané, Salah, Van Dijk, Mahrez, il y en a d'autres.
Chez les femmes, on a trois Lyonnaises, puisque tu parlais de Salah, Mané et Van Dijk. On a Lucy Bronze, Ada Hegerberg et Amandine Henry. Une Anglaise, une Norvégienne, une Française.
Là, c'est pas vraiment le Ballon d'Or. Pour l'instant, c'est les FIFA Awards.
Et Léo Hirokisaka là dedans. Non, c'est quand même scandaleux. Non, franchement, c'est Van Dijk.
Alors Van Dijk, et en plus, ce serait un défensif pour une fois.
Oui, c'est Van Dijk. C'est Van Dijk 100 fois.
Et même quand parmi les nominés, il y aurait eu Mané, Salah, Mahrez, je pense que Van Dijk aurait mérité.
Après, on sait que certains vont nous dire toujours la même chose. Ah oui, mais Varane, il l'a pas eu. Pourquoi aujourd'hui Van Dijk? Ben, c'est simple. Van Dijk, déjà, c'est le meilleur joueur élu de la plus grande compétition de club au monde. Déjà, c'est autre chose. C'est le meilleur joueur de son équipe défensivement. C'est le meilleur joueur de sa sélection.
C'est pas le meilleur joueur de son équipe tout court.
C'est presque le meilleur joueur de son équipe tout court.
Surtout.
Et il est humain, il s'est fait passer au Community Shield bien sûr, une fois après son match.
Et alors que malheureusement pour Varane, même s'il a une énorme carrière,
loin
il a
un super palmarès, son équipe.
C'est loin d'être le meilleur joueur de son équipe ou même de sa sélection. Voilà, le débat est clos.
Merci beaucoup messieurs. Puisqu'on parle Première Ligue, eh bien sachez que la Première Ligue est de retour évidemment sur RMC pour la quatrième saison. Arsenal-Burnley, peut-être avec Sead Kolasinac et Mesut Özil dans le groupe Arsenal-Burnley à 13h30 PL Live, PL Zone, samedi, dimanche. Voilà messieurs, un petit mot de la fin. On a 40 secondes. Allez-y,
en match, je fais un gros salut et bravo à Cyril Gane qui a gagné son début à l'UFC à Montevideo. Impressionnant. Alors on sait que c'est un striker, mais il a passé une soumission qui est magnifique à Rafael Pessoa. Donc bravo à lui et on a hâte de le revoir dans la cage.
Voilà, il va être un poids lourd qui faisait son premier combat et qui gagne au sol. Effectivement, on verra s'il recombat très très vite. L'UFC aussi, c'est à suivre sur RMC4 à partir de 22h30. Il y en aura un gros dans la nuit samedi et dimanche. Ouais. Nate Diaz face
Anthony Pettis,
Anthony Pettis
si
et la revanche. Des poids lourds entre
il y a Cormier, Miocic et il y a surtout aussi troisième combat, Romero Costa, ça vaut son pesant d'or.
C'est pour les aficionados.
Ça va être pas mal.
Merci les Afteriens, très bonne nuit à tous, bye bye.
RMC, l'Afterfoot.